Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Bonjour l'Aveyron et bonjour à tous, amis Aveyronnais en Occitanie, amis luxembourgeois, lorrains, allemands en grande région, bienvenue, willkommen auf Moyen Luxembourg, dans la série Découverte de l'Ouest Aveyron. Et après vous avoir présenté la Bastide royale de Villefranche de Rouergue avec Michel Lombard, je vous propose aujourd'hui de mettre un coup de projecteur sur le magnifique petit village de Najac, classé parmi les plus beaux villages de France, porte d'entrée du pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue, avec ses 700 habitants à l'année, sa place du Faubourg, son marché du terroir hebdomadaire, son emblématique fête de la foisse au mois d'août et sa fameuse forteresse. Najac attire chaque année plus de 100 000 touristes et de nombreux habitants en résidence secondaire, provenant principalement en fait du nord de l'Europe notamment. Pour parler de Najac et de la culture occitane aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de CFM Villefranche de Rouergue un enfant du pays de Najac, érudit, insatiable, passionné et passeur de culture occitane. Mayen, hallo, bonjour, Christian-Pierre Bedel.
Bonjour.
Es freut mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Pour vous présenter en deux mots, Christian-Pierre, à nos auditeurs, vous êtes donc un enfant du pays né à Najac et tout le monde vous connaît et vous reconnaît ici en fait comme le spécialiste de Najac et de l'Occitan. Si, si, c'est vrai. Hein. Quand j'ai cherché à savoir qui serait le meilleur invité pour me parler de Najac et de la culture occitane, eh bien, on ne m'a parlé, mais vraiment, que de vous.
Ah ben, ça fait plaisir.
À 300% que de vous, la boulangère, le maire de Najac, Gilbert Blanc, mes voisins, Lorrain, votre ami auteur Michel Lombard, tout le monde n'a eu Dieu et de mots que élogieux que pour vous.
C'est trop d'honneur.
Il faut dire qu'après votre enfance entre Toulouse et Najac, un service militaire en Allemagne, de nombreux voyages, la reprise d'études en droit et 1001 métiers opérationnels pendant 10 ans, à Toulouse, vous avez ressenti en fait, moi, ce que je qualifie de besoin vital de revenir à Najac pour étudier et transmettre cette culture occitane. Vous avez notamment, et vous êtes connu, reconnu pour ça, créé l'Institut Occitan de l'Aveyron et l'importante collection d'ouvrages Alcantou pour le Conseil départemental de l'Aveyron. Alors moi, j'aimerais savoir en fait, d'emblée comme ça, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais c'était quoi l'urgence, en fait, pour vous, quand vous êtes revenu à Najac, alors que vous vous partagez hein, déjà entre Toulouse et Najac? Quels sont les liens et les désirs qui ont participé à ce besoin vraiment de venir étudier et transmettre la culture de votre petit pays, j'allais dire?
Bon, je crois que d'abord, c'était dans l'air du temps. Dans les années post-68, 70, et ça avait déjà commencé avant, mais c'était revenu sur le devant. Je crois que le mouvement folk aux États-Unis, ce besoin de revenir vers cette culture qui était en train de nous échapper ou qu'on ne nous avait pas transmise, c'était quand même un sentiment assez partagé pour les gens de ma génération.
Oui, vous le ressentiez.
Oui, je pense que j'étais un peu dans l'air du temps. Là, j'ai pas vraiment innové, mais c'est vrai. Et ensuite, il y avait le lien personnel d'aborigène, d'enfants du pays et déracinés, puisque bon, mon père avait été obligé, suite à un accident, à aller vivre sur Toulouse.
Oui, c'est ça. En fait, vous dites que vous aviez à la fois le lien affectif d'aborigène et le lien affectif du nouveau venu, puisque vous avez effectué...
Le regard, je dirais le regard du voilà. Alors ça, c'est autre chose. C'est vrai que bon, j'ai toujours été... c'était aussi le temps des vacances. Et quand je venais de voir dans ma famille, il y avait des gens qui étaient du côté de Mazerolles, en face du château, c'était une vue qui surplombait un peu le château et l'église. Et je suis né au Moulin, en bas, au bord de l'Aveyron, où on a un autre regard. On est dominé par la Gleige et le Castel, comme on dit.
C'est-à-dire
et ça, c'est l'église et le château.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, c'est deux regards différents. Et j'étais toujours intrigué par ça, par ce fait architectural, etc. Je ne savais pas trop pourquoi c'était là. Et voilà. Donc, ce questionnement, il était dans l'inconscient. Il était quelque part, là.
Oui.
Et bon, en tout cas, ce besoin d'aller à la découverte et à la reconquête d'une langue et d'une culture qui ne nous a pas été transmise, pour les gens de ma génération, dans la majorité des cas, il y a des gens de mon âge qui sont nés avec l'occitan comme première langue, mais ils sont très peu nombreux, et c'est en milieu rural. Donc, majoritairement, ma génération est une génération complètement francisée, quoi.
Donc, vous vous êtes, en fait, reconstitué, vous avez retissé des liens, en fait, que vous aviez besoin d'un ouvrage complet, finalement.
Absolument. C'est vraiment se ressourcer, mais c'est vraiment se ressourcer à 100%.
Oui. Alors, la vue dont vous me parliez à l'instant depuis Mazerolles me parle à moi, nouvelle venue justement, parce qu'elle s'offre à moi tous les jours, parce que j'habite effectivement le hameau de Mazerolles, hein, qui fait partie de Najac. Et alors, tous les jours, j'ai la vue sur ce village de Najac, alors, qui s'étire sur 2 kilomètres, imaginez un peu, chers auditeurs, hein, un village qui s'étire...
Un village-rue
qui s'étire sur 2 kilomètres, donc en haut, sur la crête d'une colline, avec donc à droite, je dirais, la forteresse de Najac, en contrebas l'église de Najac, et puis à gauche, le village rue, donc, qui s'étire sur 2 kilomètres, et tout à fait en contrebas, la boucle de l'Aveyron. Cette vue, franchement, elle est unique et elle est effectivement fascinante. Et particulièrement en ce moment, en automne, j'allais dire, où les couleurs sont si contrastées.
Vous avez raison, et c'est vrai que pratiquement, il faudrait faire tout le tour, passer sur toutes les crêtes environnantes, oui, pour avoir chaque fois un regard différent sur ce lieu.
Et un cliché différent.
Et à des heures différentes, et tout ça. Et je suis sûr qu'à Mazerolles, vous êtes fasciné par la montée lente de certains brouillards qui restent
exact.
Au fond de la vallée et qui font du château. On dirait le château d'Antintin de l'île Noire, qui est là, qui émerge au-dessus de cette mer de nuages. Ça, c'est un spectacle qui fascine tout le temps.
C'est vraiment fascinant, oui. C'est vrai que le matin, quelquefois, quand je me lève, j'ai cette vue-là dont vous parlez à l'instant. Mais ça fait rêver, ça le laisse songeur. Et puis, ça impose la contemplation, en fait. Ça l'impose. Et donc, effectivement, je crois que ça, c'est unique en France. Mais en tout cas, Najac est classé donc parmi les plus beaux villages de France. Pour vous, c'est donc aussi le plus beau. Qu'est-ce qui lui vaut, à votre avis, ce classement parmi les plus beaux de France, sur le plan historique, hein, par rapport à l'historien que vous êtes?
Je pense qu'effectivement, c'est justifié. Maintenant, je ne voudrais pas déclasser les autres beaux villages de France.
Oui, sauf que là, on parle quand même de notre village.
Il est vraiment exceptionnel. Bon, oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de villages perchés, mais bon, celui-ci, comme vous l'avez bien décrit tout à l'heure, mérite vraiment le déplacement. Quoi. Voilà,
c'est vrai. Alors... je le disais, hein, plus de 100 000 touristes viennent à Najac chaque année. C'est vraiment un petit village très touristique. Mais il y a aussi beaucoup de résidents secondaires et de nouveaux venus chaque année, souvent jeunes et désireux de vivre autrement, comme vous à l'époque, je dirais, non ?
Oui, absolument. Mais c'est un peu cyclique, hein, ces phénomènes-là. Bon, actuellement, également, il y a cette tendance. Alors, Covid, il y a pour quelque chose, mais ce retour vers les lieux un peu écartés, ça en ce moment, on sent bien que il y a un intérêt, il y a eu un désintérêt à une période, et là, au contraire, on a un retour, un regain. Vous parlez de jeunes, effectivement, qui souhaitent vivre dans ces environnements où la nature est préservée, où il y a un sentiment d'hygiène, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai, ça a un effet purificateur.
Il n'y a pas de pollution, quoi. Voilà.
C'est vrai.
Et
beaucoup de ces jeunes s'installent, en fait, et développent des activités de maraîchage ou bien des activités artisanales, beaucoup dans le terroir, parce que bon, le contexte est propice quand même.
Oui, le contexte est propice à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a actuellement quand même une organisation de la société où il y a quand même beaucoup d'aide, qui permettent justement d'avoir des initiatives qu'il aurait été difficile d'avoir peut-être il y a 50 ans. Quoi.
Voilà, oui, bon. Oui.
Et je pense que c'est encouragé en quelque sorte. Cette,
oui.
Et puis aussi dans les tempéraments, dans la volonté d'avoir, de faire quelque chose, d'agir, d'être un peu indépendant. Moi, je connais pas mal de jeunes qui auraient pu avoir une carrière, je dirais... traditionnel dans la fonction publique, mais bon, avec une certaine sécurité quoi en termes d'emploi,
oui.
Et qui ont choisi une forme de précarité quoi, parce que c'est pas tout donné
d'entrée. Oui, de vivre vrai ou de vivre simplement. D'ailleurs,
ben
c'est
voilà.
Le slogan du département, hein,
voilà.
L'Aveyron, vivre vrai, je crois.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ah, c'est voilà. Bien ça. Bon, oui, c'est vrai. Alors, autre chose concernant Najac, en fait, moi j'avais l'habitude de dire que c'était Najac était chef de file en fait des Bastides. Du Rouergue, mais vous m'avez corrigé et vous avez bien fait. En fait, c'est la porte d'entrée des Bastides, du pays d'art et d'histoire, les Bastides du Rouergue, notamment grâce à la maison du gouverneur qui abrite donc un centre d'interprétation et d'architecture de,
du
patrimoine et donc des Bastides du Rouergue. Mmh. Alors, est-ce une Bastide ou n'est-ce pas une Bastide, Najac ?
Disons que ça n'est pas tout à fait une Bastide, mais beaucoup d'éléments qui ont permis de définir ce qu'étaient les Bastides se retrouvent en Natchak, comme on dit chez nous en Occitan. Et entre autres, pour les gens qui arrivent, lorsqu'ils arrivent par ce qu'on appelle le haut, l'Ubari, le faubourg, en haut, ben, ils découvrent une place qui est l'élément souvent caractéristique des Bastides.
Oui, la place du
avec,
faubourg.
Avec des couverts qu'on appelle les chitats chez nous.
Les arcades, donc, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Ah, oui.
En Atchak, c'est les chitats. Voilà.
Les chitats. Okay.
Et c'est le nom des couverts dans la région, d'ailleurs. C'est pareil, justement, sur le pays d'art et d'histoire.
Oui.
C'est le terme qui est commun aux autres cités. Donc,
les chitats.
C'est plutôt des cités médiévales qu'on va découvrir sur ce territoire. Il n'y a pas que des Bastides, il y a aussi nos salvetats. Et la salvetat, la sauveté ou salboter, bon, ce sont des termes qui désignent, je parle, c'est un peu trop technique ce que je vais dire, ce qu'on appelle une salvetat. Les sauvetés, ce sont des cités créées par l'Église au XIIe siècle.
Oui, voilà. Mais là, on est donc plus ou moins dans une Bastide. En fait, la place a la caractéristique de la Bastide.
Oui.
Sauf qu'en fait, Najac, c'est un village rue, comme vous
oui.
disiez, et non pas un village quadrillé, comme ça.
Et surtout un village castral.
Ah,
et, donc, et vous avez raison de dire qu'on ne peut pas voir le quadrillage qu'on a sur les Bastides qui sont construites de toutes pièces dans une période bien précise.
Au
puisque
Moyen-Âge.
Donc, à Najac, ce qu'on appelle les couverts en haut, ça c'est du 16e siècle, 15e, 16e siècle.
Ouais.
Alors que les Bastides, c'est de 1229 à 1376, par là, voilà. C'est une période particulière de l'histoire. Mais Najac... est à l'origine, au fait, aussi de ce mouvement-là, en quelque sorte. Puisque le nouveau comte de Toulouse, qui devient le seigneur de Najac, Alphonse de Poitiers, frère du roi de France, va créer juste à côté la Bastide de Villefranche de Rouergue. Et donc, c'est intimement lié. Quoi. Et,
Il va presque créer une concurrence.
Voilà, Najac voilà, précède cette création. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Oui. Alors, Najac, donc, classé parmi les plus beaux villages de France. Najac, porte d'entrée des Bastides du Rouergue. Et Najac aussi, grand site d'Occitanie. Mais alors, pas forcément l'Occitanie d'aujourd'hui. Najac véhicule aussi l'histoire, la culture et peut-être bien la langue occitane d'hier. Avant d'en parler... Christian Pierre, je vous propose d'écouter un morceau qui devait être initialement un morceau surprise pour vous, mais il se trouve que nous nous sommes finalement retrouvés sur le choix. Donc on l'explique après, mais on peut juste dire qu'en fait il s'agit de ce qui est considéré comme l'hymne occitan, interprété là par le groupe Nadaw, un groupe de musique traditionnelle et de chant que presque tout le monde connaît. Moi, je ne connaissais pas, mais ici, tout le monde connaît. Voilà, donc c'est parti, c'est le Secanto de Nadaw.
Oh,
que c'est magnifique et personnellement, ça m'a donné des frissons, le secanto du groupe Nadao. Je vous voyais, Christian-Pierre, presque en méditation. Qu'est-ce que c'est que cet hymne occitan? Que véhicule-t-il? Quelle est son histoire, son intérêt et sa présence aujourd'hui?
Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on en connaît les versions dans tous les dialectes occitans, que ce soit en Provence, à Limousin, partout. Donc, il est vraiment répandu et connu sur tout le territoire. Il l'était tout au moins, il n'y a pas encore très longtemps. Et Nadao le fait vivre de manière exceptionnelle parce qu'on attribue ce chant à Gaston Phébus, qui était le comte de Foix-Béarn. Donc, ce chant serait d'origine béarnaise, un chant d'amour. Ce qui n'est pas un chant de guerre, donc ça...
Oui, ce n'est pas un chant révolutionnaire, hein. C'est un hymne occitan, mais ce n'est pas un chant révolutionnaire. Voilà. Un chant d'amour, vous disiez, pardon.
Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, le choix que vous avez fait de Nadao est très intéressant, parce que Nadao est un groupe qui existe depuis pas mal de temps, quelques décennies, mais qui a su rajeunir la culture traditionnelle, la faire partager par toutes les générations et par tous les gens d'où qu'ils viennent, comme vous-même. Et ça, c'est tout le répertoire de Nadao, c'est dans cet esprit-là. Ils ont fait des choses avec des orchestres symphoniques, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail de création aussi.
Oui, voilà, faut vraiment l'écouter, oui. Et donc, en fait, ce canto véhicule donc l'histoire, la culture et la langue occitane, hein, puisqu'il chantait en occitan. Ce canto, ça veut dire il chante.
Voilà.
Mais il véhicule en fait la culture, la langue occitane de l'Occitanie d'hier, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, parce que je rappelle que l'Occitanie aujourd'hui résulte de la fusion et de la réforme territoriale, fusion donc entre deux régions, le Languedoc-Roussillon, c'est ça, et puis Midi-Pyrénées. Mais historiquement, l'Occitanie, je crois qu'on peut la situer, et si on veut faire une situation de l'ère géographique, de l'ère culturelle au niveau linguistique, je crois qu'on peut la situer à l'époque du serment de Strasbourg en 842. Mais là, s'arrête mon propos, je vous laisse la parole de spécialiste.
Oui, en fait... la langue occitane qui aujourd'hui est fortement dialectalisée, mais dont il existe quand même un standard en termes graphiques et qui est utilisé dans l'enseignement de cette langue, en fait, est considérée par notamment un linguiste allemand, Hans Stroh, de l'université de Munich, qui considère que c'est la langue la plus proche des serments de Strasbourg, enfin de la partie romane des serments de Strasbourg, puisque le partage de l'Empire de Charlemagne, on a réuni les troupes et Charlemagne était un germain, un franc, ce partage a été présenté en deux langues, en langue germanique et en langue romane. Et de la langue romane sont issus, d'après les linguistes, donc la langue de 842, deux langues, un roman du sud et un roman du nord. Le roman du nord, c'est la langue d'Oïl, la langue d'Oïl, d'Oïl, du oui, où on dit oui. Et la langue du sud, c'est la langue d'Oc, ce qu'on dit O, pour dire, et on dit occitan, alors ça vient de là. Et
donc la langue du nord, donc des trois quarts nord,
fait,
de la France
nord,
de l'époque, voilà, se rapproche du germain.
Voilà, sauf que justement, une partie du nord de la Loire était dans la mouvance franque, mais était également fortement influencée par la langue des Aquitains. Le roman des serments de Strasbourg, c'est l'Aquitaine, la Grande Aquitaine, qui allait largement jusqu'à la Loire. Et donc, une partie du territoire franque, au nord de la Loire, qui était encore germanisée, va faire évoluer cette langue vers ce qui va être la matrice du français, alors que dans le sud, on était plus près, davantage romanisé, et on est resté plus proche du latin. Voilà.
Oui.
C'est un peu ça. C'est ça l'origine de la langue occitane, mm-hmm. qui est parlée aujourd'hui, qui était parlée jusqu'à une époque récente, au quotidien, sur 32 départements du
donc
sud
en
de
fait,
la Loire.
Oui, un tiers sud, en fait, le tiers sud de la France.
Un gros tiers sud, oui.
Quel a été l'âge d'or de la langue occitane?
12e siècle, c'est la langue de civilisation européenne pour les spécialistes de littérature, avec l'aventure des troubadours, 400 troubadours connus, une centaine d'anonymes qui rayonnent sur toute l'Europe. On va les retrouver en Palestine, on va les retrouver à la cour du roi de Hongrie, on va les retrouver au Portugal, on va les retrouver en Espagne. C'est vraiment transformé. On est, influence des Minnesänger en Allemagne, influence sur...
Les troubadours, les ménestrels, oui.
Voilà, mmh. Voilà. Donc, et les trouvères français. Voilà, c'est là la référence pour la littérature européenne à cette époque-là.
Vous avez deux, trois expressions qui pourraient peut-être m'aider ici à comprendre mes interlocuteurs avéronnais qui parleraient occitan et des expressions qui persistent encore aujourd'hui dans le langage courant.
Oui, quelqu'un qui a fait un livre là-dessus, quand on dit « abisto denas », abisto denas, c'est à vue de nez, vous voyez, par exemple. Mais bon,
le quesaco aussi, vous m'avez dit.
Pardon ?
Quesaco.
Quesaco, alors le quesaco qui est dans le dictionnaire de l'Académie française au XVIIIe siècle, mais en un seul mot comme ça, et c'est quesaco, c'est qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors on retiendra le quesaco, et puis j'ai déjà oublié l'expression...
Abisto denas.
Abisto denas, c'est-à-dire à vue de nez.
Voilà.
Voilà, donc à vue de nez, eh bien nous sommes à la fin de l'émission. Et donc je vous remercie, Christian-Pierre Menel. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une spéciale Noël sur les traditions et les rites autour du solstice d'hiver et de Noël en Aveyron. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, un très bon week-end où que vous soyez. À bientôt tout le monde. Au revoir. Adi, tchuss, grosse région et salut l'Aveyron.
Et aïe. J'allais vous dire Alcop Québé, à la prochaine.